Et quand nous on était arrivés, ouais, c'était 2015 je crois même, t'avais déjà depuis 10 ans plus un seul de roue thermique, quoi. Tout était passé en électrique. Et encore à une échelle assez hallucinante. Et c'est vrai que nous ça a été une énorme réalisation, d'autant que on avait le problème de pollution. On était arrivé, je me souviens, le premier jour où on est arrivé, on voyait pas à 500 mètres devant nous tellement il y avait de pollution. Mmh. Et en même temps, ils développaient des trucs qu'on n'avait jamais vus alors que nous-mêmes, on faisait du scooter à Nantes ou à Paris.
Ouais.
Donc ça, c'était un peu le première réalisation et la première brique de Starbolt.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères des débuts, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces petits détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis David Baruchel, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute!
Bienvenue dans La Galère, je suis David et aujourd'hui j'ai non pas un mais deux invités, Edouard et Hugo de chez Starbolt. Alors Starbolt, c'est la startup qui développe des vélos électriques par abonnement pour les entreprises, c'est ça ?
C'est ça, bien résumé, très bien résumé.
Bon, bienvenue à tous les deux, merci d'être venus dans nos bureaux pour ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous pitcher déjà un petit peu Starbolt, nous raconter ce que c'est ?
Oui, avec plaisir. Nous, notre métier chez Starbolt, c'est de faire en sorte que les gens fassent plus de vélos. Et la manière dont on le fait, c'est en s'appuyant sur les entreprises. Et donc, on démocratise cet usage en accompagnant les entreprises et leurs salariés. Avec trois métiers, mise en service de vélos qu'on peut souscrire. Donc, vous pouvez souscrire et vous faire rembourser par votre entreprise. Un métier d'accompagnement aussi sur l'aménagement des zones de mobilité. Et puis, il y a un gros sujet aussi sur comment est-ce qu'on convainc les gens de se mettre au vélo s'ils ne sont pas enclins à le faire. Et donc, tout un métier d'événementiel d'animation autour du vélo.
Peut-être qu'on a fait. On a fait un vrai choix, c'est d'être un opérateur. C'est-à-dire qu'on fait fabriquer nos vélos. On les fait fabriquer en France. On les fait fabriquer à côté de la Roche-sur-Yon en Vendée, sous notre marque. Et ensuite, on vient les mettre en location pour des salariés. Et vraiment le gros but de Starbolt, sa mission, c'est de mettre les gens en selle, c'est de démocratiser l'usage. Et on a fait ce choix en fait de le faire via les entreprises, de pas être un magasin de vélos, mais l'entreprise a un énorme rôle à jouer en fait, parce que les gens se déplacent du lundi au vendredi pour aller souvent pour aller au travail, pour des rendez-vous clients. Donc c'est comment est-ce que l'entreprise joue son rôle pour accompagner les salariés vers des nouvelles mobilités plus durables. Et aujourd'hui il y a un changement structurel des villes qui se tourne vers le deux roues. Donc c'est passionnant de travailler sur ce sujet de la mobilité des salariés.
Et alors du coup il y a différents axes, parce qu'il y a un axe un peu B2C puisque vous essayez d'aller parler directement aux salariés. Donc tous ceux qui nous écoutent qui travaillent en entreprise aujourd'hui peuvent aller demander un abonnement pour recevoir leur vélo Starbolt par abonnement et du coup se faire rembourser par l'entreprise, c'est ça ?
Ouais, exactement. Comme sur ton pass Navigo ou ton titre de transport public, ton entreprise aujourd'hui a quasiment tout le fonds. Elles peuvent décider de te rembourser une partie assez importante, jusqu'à, on a des entreprises, 80%. Nos abonnements, ils commencent à 59€.
Ouais.
Ton vélo électrique fait en France avec une assurance vol. Après, tu as différentes options. Mais si tu as ton entreprise qui te prend 37,50€, par exemple, qui est le niveau de titre de transport à Paris, tu tombes à une vingtaine d'euros pour un vélo électrique qui du coup hyper abordable. En plus, nous, on a cette particularité d'être sans engagement. Si t'es frileux et que tu ne sens pas d'en faire l'hiver, tu peux le prendre que pour l'été, un peu comme ton compte Netflix, ouais, que tu peux switch on and off. Assez hyper intéressant côté entreprise et côté salarié, et puis pour les entreprises hyper intéressant aussi, parce que gros sujet avec la mobilité, c'est qu'on touche un sujet évidemment d'écologie. C'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, donc on s'intéresse vraiment au cœur du sujet. Un sujet évidemment de bien-être des collaborateurs, parce que bon, pour ceux qui sont un peu dans les grandes villes, on se voit qu'aujourd'hui se déplacer c'est quand même assez compliqué, en tout cas les manières traditionnelles, et que le vélo c'est le moyen de déplacement le plus rapide et plus efficace. Et puis un dernier point qui est la marque employeur, et comment est-ce que l'entreprise arrive à attirer des talents et à proposer des avantages à leur lieu qui sont intéressants et surtout qui sont en accord avec ce qu'attendent les jeunes aujourd'hui. Très clairement, la voiture de fonction, enfin, moi j'ai passé mon permis il y a 3 ans. Je pense que pour pas mal de citadins de notre âge, contrairement à la génération passée où c'était un peu le signal de la liberté, et dès qu'on avait 18 ans on passait son permis, là ça a plus trop d'intérêt et donc plutôt un vélo dans ton package fait un peu plus sens, quoi.
Et donc ça, c'est un peu le côté B2C. En B2B, ça marche comment?
En B2B, c'est l'entreprise qui est notre client.
Ouais.
Et donc, elle va souscrire. En fait, on l'accompagne à plusieurs niveaux. Ce qu'on dit, c'est qu'on va activer leur stratégie de mobilité durable. Et donc, pour ça, il y a toute une méthodologie Starbolt. On va essayer déjà de comprendre les besoins de l'entreprise, où habitent ses salariés, quelle est la zone en fait, où est-ce qu'ils habitent, combien de temps ils mettent pour venir au travail, comment ils vont au travail. Et ensuite, à partir de ça, à partir d'une étude de la mobilité des salariés, on vient proposer des axes pour que l'entreprise active cette stratégie de mobilité durable. Il y a plusieurs choses. Il y a de l'aménagement. Comment aujourd'hui, beaucoup de grosses boîtes ont un peu des garages à vélo un peu poussiéreux ou qui ne donnent pas du tout envie d'aller, qui sont au moins 2 d'un parking. Donc, c'est comment est-ce qu'on va déjà faire rayonner cet endroit pour que ce soit attractif pour les salariés, de venir avec soit leur vélo personnel et de pouvoir l'attacher, qu'ils soient en sécurité. Donc déjà, pour que les salariés puissent venir et puissent accrocher leur vélo, déjà, l'infrastructure est hyper importante. Et ensuite,
je suis en train de me demander où est-ce que vous avez dû poser vos vélos là en arrivant. Mais
il y a une petite cour et il y a même un petit parking vélo. Ouais, franchement, ouais. Mais c'est un des freins majeurs, hein, c'est vrai, Edouard met le point dessus. Mais...
C'est un des freins, ouais. L'infrastructure vélo est hyper importante. Et ensuite, on a toute une partie de flotte partagée. Et ça, c'est la grosse idée de Starbolt. Et en fait, on a commencé par ça. C'est comment est-ce qu'on vient mettre des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo, et encore moins du vélo électrique, à vélo. Donc là, l'entreprise souscrit en fait un abonnement Starbolt. On vient mettre 10, 15, 20, 30 vélos au sein de son entreprise, des vélos qui sont connectés et partagés, disponibles via une application. Un petit peu comme ce qu'on voit en free floating. On s'est beaucoup inspiré du free floating Lime, City Scoot, qu'on voit dans la rue, mais vraiment du free floating. C'est pas du free floating, mais c'est du semi-floating, on l'appelle comme ça, pour des entreprises, donc des vélos à disposition des salariés.
Ce qui reprend un petit peu l'idée des flottes d'entreprises sur les voitures qu'il y avait avant, mais cette fois-ci...
Dédié au vélo, et ça implique pas mal de choses sur comment est-ce qu'on... Il y a de la formation à la sécurité, de la formation vélo. Nous, ça nous paraît très évident en fait, de faire du vélo, surtout qu'on en a tous les deux toujours fait depuis, pour se déplacer. Et en fait, on se rend compte que pour beaucoup de personnes, c'est un peu un frein. C'est quelque chose qui... Par exemple, c'est drôle, ma femme, qui est infirmière, qui au début se disait « Jamais je prendrai le vélo, Paris c'est beaucoup trop dangereux, Paris, enfin, c'est compliqué d'en faire », qui m'attend évidemment son vélo Starbolt. et elle a complètement switché de mentalité sur le fait que, voilà, on explique comment faire du vélo, d'avoir les bons accessoires, de prendre en main, et en fait finalement c'est juste d'avoir ce petit déclic, et nous on est là pour faire ce petit déclic aussi, pas forcément juste d'installer des vélos, une flotte de vélos dans une boîte, mais c'est comment on le fait. Et derrière ça, on a pas mal d'ateliers à la sécurité, à la formation, et on fournit aussi tous les accessoires pour que ce soit le plus facile et clé en main pour des salariés de se mettre au vélo. Donc ça comprend casque, le porte-téléphone pour pas que la personne ait son portable dans la main, ça comprend des vêtements de pluie, des sacoches pour pouvoir mettre ses affaires, voilà. Bon, on a pas mal de services annexes d'accessoires pour faire en sorte que ce soit facile pour le salarié de se déplacer.
Et la cible en termes de typologie d'entreprise pour cette offre B2B, c'est quoi ?
On a une cible qui a été très variée au début, et puis au fur et à mesure...
Le genre de contact du marché, ça se précise.
Au début, on prend un peu tout ce qui est réceptif, et ensuite, après, on se concentre sur quels sont des clients avec qui c'est compliqué de travailler, quels sont les clients qui sont les plus... où il y a le plus de chiffre d'affaires à faire, plus de potentiel. Mais on sait... au début, on avait 3 segments qu'on adressait, qui étaient très réceptifs. C'était le marché des scale-up, donc c'est entreprises à forte croissance, grosses start-up à forte croissance, qui veulent beaucoup travailler sur leur marque employeur, et une offre Starbolt de mobilité est importante. Le marché des agences immobilières, donc souvent par franchise, il y en a beaucoup, et beaucoup de petits déplacements en fait pendant leur journée de travail. Et ensuite, on a aussi commencé avec des collectivités. Et dernière chose, des sièges sociaux plus traditionnels.
Ok.
Et voilà. Et le scope s'est assez rapidement réduit. On a commencé par exemple à répondre à des appels d'offres pour des collectivités où là, en fait, on est beaucoup trop jeune et pas staffé pour le faire et c'est compliqué. Donc, on a complètement mis ça de côté. Les agences immobilières maintenant se concentrent plus sur des typologies d'entreprises qui sont un peu plus grosses.
Ce qui est intéressant, si je peux intervenir avec Starball, c'est que c'est un produit horizontal. Enfin, c'est un sujet qui touche tout le monde. Et donc bah, c'était aussi très dur au début de cibler,
ouais.
Parce que bah, tout le monde peut se dire tiens j'aide mes salariés à se mettre au vélo, tiens moi je me mets au vélo pour aller au bureau. Et donc on a fait effectivement un gros travail de segmentation, test and learn, hein, vraiment du marché. Et c'est vrai que la petite anecdote, c'est les agences immobilières, c'était notre premier client, parce qu'évidemment il y a beaucoup de déplacements, petites distances, beaucoup de rendez-vous à faire. Et plus on grandit, bah plus t'es capable d'adresser des grosses tailles d'entreprise. Et forcément, bah t'as plus d'impact, forcément t'as plus de business à faire, etc. Donc ça va dans ce sens.
Okay. Voilà.
Le créneau, et juste pour terminer sur ça, le créneau qu'on prend énormément, c'est le créneau de l'immobilier.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a des centres d'affaires où là, il y a les bureaux doivent se réinventer complètement. Avant, elles avaient leur cantine, leur salle de sport. Et maintenant, la zone de mobilité dans les centres d'affaires devient primordiale et devient vraiment un besoin de cette typologie de clients.
Et du coup, là, vous intervenez dès la conception. Vous arrivez très tôt, en fait, dans le process pour accompagner aussi sur comment bien penser la stratégie de mobilité, enfin, les accès, etc.
C'est ça.
D'accord. Toujours avec une attente de résultat. Tu vois, de capitalisation, de faire ton ratio entre quel va être mon temps investi et mon retour sur temps investi dans mon cycle de vente.
Ouais.
Mais bah, plus tu es sur un bâtiment qui est déjà en action, bah, en fait, tu peux intervenir et dire bah, je peux avoir du résultat tout de suite. Mais plus aussi, forcément, c'est plus compliqué parce que bah, tout est déjà installé. Donc voilà, toujours un peu le ratio. Mais soit on va intervenir dans des phases de commercialisation où tu n'as pas encore tous tes locataires, mais t'as encore un peu de place pour faire de l'aménagement. Soit carrément, on travaille avec des asset managers qui veulent proposer du service sur des actifs déjà existants. Et on se projette, pourquoi pas, à long terme, à travailler avec des promoteurs, donc vraiment très très early dans le cycle de construction et de conception des espaces. Mais forcément, sur des projets qui sont beaucoup plus long terme.
Et alors, aujourd'hui, Starbolt, ça représente quoi? Comment vous faites tourner une boîte comme ça? Déjà, vous avez commencé quand enfin, il y a combien de temps? Et aujourd'hui, je sais pas, vous êtes combien? Comment ça tourne?
Alors pour la petite histoire, en fait, avec Hugo, on est potes, enfin on est amis de promo. Et à la sortie de nos études, en fait, on a rapidement lancé Starbolt.
Mais aujourd'hui, vous êtes
aujourd'hui, on est combien?
Ouais.
Ah pardon, on a lancé ça en 2018. Ouais. On a fait tout le lancement commercial en 2020 après le Covid.
Ouais.
Et aujourd'hui, on est 10 personnes.
Ok.
Et on a 5 recrutements en cours. On sera une quinzaine de personnes d'ici les 3-4 prochains mois.
Ok, et vous financez comment sur tout ça?
On s'est financé, on a fait deux prêts étudiants au début avec Hugo.
Ouais.
Qui nous a permis
meilleur tip, ça d'ailleurs. Pour les auditeurs, moyen d'avoir de l'argent facile quand on est tout début, c'est prêt étudiant. Surtout pas le dire à son banquier. Surtout pas. Dire que c'est pour faire des études. Mais ça s'attribue, en tout cas, il y a 5 ans, 6 ans, assez facilement. Et ensuite, ouais, bah, du coup, on a pas mal travaillé avec des banques parce qu'on fait financer des assets concrets, tangibles, des capex. Donc, financer des vélos, bah, c'est des choses que les banques veulent bien financer.
Okay.
Et puis, récemment, on a closé une levée de fonds avec des investisseurs privés. Donc là, bah, dans une phase vraiment d'accélération et de financement de croissance pour du recrutement, pour du marketing. Tout récemment, on a levé 2 millions d'euros.
Bravo.
Et on continue on capitalise là-dessus pour faire ces recrutements et pour vraiment asseoir cette position de leader qu'on a un peu pris et qu'on veut du coup bah, définitivement insérer au niveau national et bientôt international aussi, on espère.
Vous allez nous raconter d'où tout ça est sorti. On va revenir un petit peu en arrière pour comprendre un petit peu votre histoire. Déjà peut-être quoi ?
T'as fait le petit bruitage jeudi ou le petit...
Je peux le faire. Voilà, il est fait. On va l'instaurer. Peut-être comment vous êtes rencontrés dès le début, c'est ça ? Ou peut-être est-ce que vous avez eu d'abord d'autres expériences entrepreneuriales qui vous ont poussé chacun d'entre vous à vous lancer là-dedans? Comment ça s'est passé le début?
Alors le vrai entrepreneur, c'était Edouard. Non, j'ai quand même été tous les deux assez intéressés par ça. Moi, surtout ce que j'avais en tête, enfin ce qui était un des drivers, c'était de trouver vraiment d'avoir un impact social, environnemental. C'était sûr, avec une expérience assez marquante quand j'étais parti en stage à Hong Kong pour un peu le dream stage de milieu d'études chez Dior, haute joaillerie, montre, donc vraiment le luxe du luxe, et juste désabusé totalement pour déjà la structure de la boîte et aucune visibilité sur le projet, ma boss qui était à Singapour, aucun lien entre les équipes et sur ce que donnaient nos projets et nos rendus, et ensuite aussi sur le sens du business en lui-même, où même si on touche à l'artisanat de ce qui se fait le mieux, il faut imaginer le pour ceux qui connaissent pas ce secteur, que la haute joaillerie c'est une collection tous les deux ans. C'est des pièces début de collection de 200 000 euros la paire de boucles d'oreilles, et ça monte à plusieurs millions d'euros, donc c'est très 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 travaillé, hein, c'est presque de l'art, mais à côté de ça tu touches une clientèle qui est les 0,00001% de la population, qui en va en faire aucune utilité, qui fait probablement ça, achète ça pour du placement. Et en parallèle, Hong Kong, c'est une des villes au monde où t'as la plus grosse disparité sociale, et tu vois les Hongkongais qui triment et qui ramassent des cartons pour essayer de les revendre pour se faire quelques dollars par jour. Donc là, moi, ça a été assez révélateur, et j'ai tout de suite compris que okay, je voulais aller dans un truc qui portait du sens et dans des plus petites structures, et c'est comme ça que je me suis orienté vers l'entrepreneuriat, et je me suis spécialisé donc avec ce master à l'EM Lyon qu'on a fait, avec toujours cette vocation aussi de voyager. C'est là où j'ai rencontré Edouard.
Edouard est du coup le vrai entrepreneur. Pourquoi le vrai entrepreneur?
Enfin, c'est en fait, moi j'ai toujours été animé par l'aventure, par le voyage, par ce côté aussi pas mal inspiré par des personnes qui font des choses et qui sont vraiment dans une optique de pas forcément d'être que dans le conseil ou mais vraiment des personnes. Ça m'a toujours passionné de voir des personnes qui passent de rien à quelque chose. Et c'est un gros challenge pour moi de me dire voilà, sur quoi en fait sur quoi est-ce que je peux avoir un impact, sur qu'est-ce que je peux faire, et finalement c'est un long processus, mais c'est déjà un caractère ou en tout cas une envie d'entreprendre, une envie de faire quelque chose, et ensuite qui se nourrit avec des projets où t'as envie d'avoir un projet qui a du sens pour toi, t'as envie d'avoir un projet dans lequel t'es confortable, dans lequel t'as envie de travailler. Moi, il y a aussi un côté que j'aime beaucoup, c'est comment est-ce que tu réunis des personnes autour de toi, comment tu constitues ton équipe, tu constitues ton cadre de travail, et de voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait. On s'est rencontré avec Hugo sur les bancs de l'école, et très vite on s'est dit il faut qu'on s'est super bien entendu.
Tu as dit il faut qu'on fasse quelque chose.
On était déjà dans une démarche hyper à l'écoute du marché, de ce qui se faisait, et en fait on a fait une particularité d'avoir passé du temps en Chine et aux États-Unis. Deux villes très différentes mais assez innovantes. J'étais scotché par la Chine sur plein d'aspects, positivement et négativement, qui est très en avance sur certains sujets, qui fait les choses assez rapidement aussi, très vite, dans un état d'esprit de un peu de maker, c'est-à-dire voilà, tout va très vite, les relations vont très vite, c'est pas comme en France où je trouve que ça prend beaucoup plus de temps. Et puis aux États-Unis, on était
notamment pas mal en avance aussi sur les questions de mobilité, j'imagine.
Très en avance sur les questions de mobilité. C'est en 2016 ou en 2017 qu'il y avait déjà pas mal de vélos en libre partage dans la rue. C'était les premiers, les vélos jaunes qui ont essayé de faire leur entrée à Paris, où ça n'a pas été une réussite.
Les Ofo,
qui est dingue,
Ofo, ouais, exactement.
Les mecs, ils ont le plus gros problème de pollution au monde. C'est plus, forcément, ils ont fait en 40 ans, ils ont fait deux révolutions industrielles à la sortie du communisme. Ils ont essayé de rattraper leur retard. Et donc, ils ont tellement eu de problèmes de pollution qu'ils se sont aussi mis à chercher des solutions. Et à la chinoise, ils ont identifié que le transport dans les villes, c'était une des sources de gaz à effet de serre les plus importantes. Donc ils ont dit du jour au lendemain, maintenant il y a plus de 2 roues à essence. C'est terminé. Et vraiment de manière complètement binaire à l'échelle de 1 milliard de personnes. Et quand nous on était arrivés, ouais, c'était 2015 je crois même, t'avais déjà depuis 10 ans plus un seul 2 roues thermique. Quoi. Tout était passé en électrique. Et encore à une échelle assez hallucinante. Et c'est vrai que nous, ça a été une énorme réalisation, d'autant qu'on avait le problème de pollution. On était arrivé, je me souviens, le premier jour où on est arrivé, on voyait pas à 500 mètres devant nous tellement il y avait de pollution. Mmh. Et en même temps, ils développaient des trucs qu'on n'avait jamais vus, alors que nous-mêmes, on faisait du scooter à Nantes ou à Paris.
Ouais.
Donc ça, c'était un peu le premier première réalisation et la première brique de Starbolt. Et puis après, il y a les États-Unis.
En fait, le projet est né en Chine de Starbolt. On a vachement échangé avec Hugo sur déjà un peu sur.
Vous étiez tous les deux en Chine à ce moment-là.
On était tous les deux en Chine et on était dans des espèces de dorms un peu à la communiste dans l'université.
Tout de suite.
mais en fait, c'est un moment où on a vachement échangé sur quelle perspective, en fait, quelque chose d'un peu plus profond sur comment donner du sens à notre boulot, de pas s'embarquer dans quelque chose sur lequel on n'a pas envie d'être. Et rapidement, la voie de l'entrepreneuriat, la voie de créer un projet est arrivée. Donc, c'est eu un gros moment d'échange sur ça. Et en fait, on a commencé la boîte. Alors, c'était dans la mobilité. Mais on a commencé en fait d'importer des scooters électriques dans le but d'électrifier en fait toutes les flottes de livreurs de pizza, livreurs de sushis. Et donc d'abord d'apporter une offre un peu packagée. Il y avait très peu de scooters électriques en fait en France à ce moment-là. Et donc maintenant ça nous paraît en fait, on voit des city scooters, on voit tout ça. Mais... Donc on a commencé comme ça.
Donc vous êtes rentré de Chine et vous êtes dit ok, le truc qu'on doit faire, ou vous étiez encore en Chine quand vous avez
on décidé. Était encore en Chine.
Ah, vous étiez encore en Chine, ok.
On était encore en Chine.
On a commencé à essayer de trouver des usines et tout. En fait, on a tellement, ça nous est paru tellement comme une évidence le scooter électrique qu'on n'avait jamais vu.
Qu'on importe ça en France.
Ça fait pas de bruit, t'as pas de coût d'essence, c'est hyper agréable en termes de sensation de conduite. Et on s'est dit, mais c'est trop bien, faut qu'on en ramène. Et effectivement, avec un positionnement B2B dès le début, on s'est dit, on n'a pas beaucoup de cash. Si on veut faire une marque B2C, on va devoir dépenser des milliers de cents en marketing.
Et convaincre les gens.
Voilà. Et qui est-ce qui est intéressé par faire des économies c'est plutôt les livreurs. C'est vrai qu'on a commencé par les livreurs.
Mais on s'est très vite détourné de ça.
Mais si je rentre un peu dans le détail, donc vous étiez encore en Chine, encore en études. Et là, vous dites, OK, les scooters électriques, c'est la folie. Vous avez fait quoi? Vous avez contacté des livreurs
des usines.
Alors, des usines sur place pour dire, est-ce que vous pouvez nous fabriquer
Combien ça coûte?
Voilà, on est entré en contact avec une boîte de sourcing.
Ouais.
Et on s'est même associé avec une personne qui avait le but de trouver des usines et des scooters.
Ok, oui, parce que j'allais dire, l'écosystème chinois, quand vous arrivez, ça doit pas être super facile à
non,
naviguer.
C'est pas chinois.
On était quand même dans un master où le but c'était de. On était dans une université chinoise avec des profs chinois. Dans notre master, il y avait une majorité d'étudiants chinois et on rencontrait des boîtes chinoises. On a même fait une mission de consulting pour une boîte chinoise. Quand même, on était au contact de l'écosystème chinois. Mais c'est vrai que on a. Pour parler à des usines, il faut s'imaginer là-bas ce qu'on appelle les minimum order quantity, donc le minimum que tu peux commander, c'est le palier minimum à partir duquel tu peux commander en B2B. C'est pas 10 pièces ou 100 pièces comme en Europe, ça commence à 10 000 quoi. Là-bas, l'échelle, elle est quand même fois 100 ou fois 1000. Donc évidemment, t'es obligé de passer par un intermédiaire qui va à la fois te permettre de parler avec les usines et en même temps aussi de faire un travail d'analyse de qualité.
Ouais.
Et on a rencontré un Français, effectivement, qui nous a dit, moi, je peux vous aider à faire ça, c'est mon métier. Et nous, on a dit, on pense qu'il y a un marché en France, et on est partant d'essayer de le commercialiser et toi, tu serais notre pied en Chine. Et donc on a commencé comme ça en s'associant. Il nous a dit je veux bien prendre un peu de part de la boîte et je vous fais ça gratuitement dans un premier temps.
Ok. Mais vous aviez étudié, mis à part l'intuition sur la partie livraison, livreur, vous aviez un peu parlé à ces gens, les livreurs, vous connaissiez le milieu.
En rentrant en France,
d'accord, ouais. Mais vous aviez déjà commencé à les contacts avec.
C'est la première chose qu'on a faite. Commencer à aller, moi je me souviens, j'étais littéralement avec ma petite feuille, mes questions, et chez les Pizza Hut, chez les Domino's, chez les Sushi Shop. Alors tu fais combien de trajets par jour? Alors
tu trouves, comment tu trouves le bon interlocuteur? Parce que j'imagine que c'est pas le.
Ah là, tu vas.
Non, là, tu vas au pizza,
dans le
du coin de la rue.
Tu vas. Ouais. T'essayes de pas y aller au rush time à 12h30 où tu sais que les gars sont en train de bouiller. Et en fait, c'est des gens qui sont super sympas. Si t'es un peu sympa, et en plus, moi, je me faisais. Parce que j'étais d'ailleurs, je me suis passé pour un étudiant qui faisait une petite analyse de marché.
La classique, elle est très bien celle-là aussi.
Elle est top parce que tout le monde est un peu bienveillant. Et non, ils étaient hyper sympas, hyper à l'écoute. Les managers, ils sortaient toujours du magasin pour discuter avec toi. Il y en a même qui, enfin, que je suis venu revoir pour comprendre un peu, tu vois, le modèle. Et puis en fait, au bout de parler de 7 Pizza Hut, c'est un marché qui est franchisé, donc on a réussi à parler au gars qui gérait les franchises. Et en fait, on n'y est même pas allé parce que pour le coup, on a vécu une grosse galère. C'est que et ça, c'est un bon premier retour. C'est que quand on parle de minimum viable product, alors nous, on a suivi, en plus, on a suivi des cours d'entrepreneuriat, donc on savait ce que c'était que le concept. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'idée d'essayer de juste lancer un produit qui est pas du tout fini, voire inexistant, et d'essayer de le vendre ou en tout cas de le mettre dans les mains des utilisateurs. Et en fait, on a fait l'inverse, c'est qu'on a cherché notre produit parfait en Chine pendant ce temps-là, qui était notre scooter du coup électrique.
Et on parfait a mis, par rapport à des critères que vous connaissiez.
Voilà, qu'on commençait à faire remonter un peu sur le marché, et puis juste l'idée était de se dire on va en rapporter un, quoi. Alors, il faut se dire aussi que ça n'existait pas en France à ce moment-là, donc on pouvait pas en trouver sur le marché français. Ouais. Mais plutôt que de mettre une alternative deux roues électriques, on était fixé sur notre scooter électrique. Et on a mis 8 mois avant de le voir arriver à Paris. Donc au moment où tu rentres et le moment où tu es en train de tester ton marché, il y a un moment où il faut mettre des trucs vendre des trucs et tester. Et ça, c'était une première galère qu'on a eue très très long à mettre en service.
Et pour finir sur ce sujet-là, quand ils sont arrivés, les scooters étaient nuls.
Ah oui.
Oui, c'est ça la chute.
C'est ça la chute.
Ils sont arrivés, ils étaient inexploitables, ils allaient beaucoup trop vite. Enfin, il y avait de l'accélération, ça faisait du 0 à 60 en 3 secondes. Enfin,
les freinaient.
Les freins, ça, donc bref.
Ça se bloquait d'un coup, enfin, c'était méga dangereux.
Donc et c'était ce premier point, on a perdu énormément de temps. Sur l'importation, sur le fait qu'on n'avait toujours rien vendu au bout de 8 mois, et quand c'est arrivé, c'était pas le bon modèle. Et on a quand même complètement remis en question en fait ce qu'on faisait.
Donc juste sur le côté vente, vous avez parlé à tous les Pizza Hut, et pourquoi tu dis vous êtes même pas allé au rendez-vous avec le.
En fait, on s'est rendu compte que les gars avaient un comportement extrêmement agressif avec les véhicules. C'est des livreurs qui le surutilisent. Donc t'avais une attente produit très très forte, d'autant que en termes de, c'est leur moyen de bosser. Donc si tu as un problème sur le scoot, ils peuvent moins livrer de pizza. Ils sont hyper dépendants de la qualité de leur scoot.
Et du coup, 0 à 60 en 3 secondes, c'est peut-être pas mal.
C'était pas mal, ouais, c'était pas mal. Si tu perds tes 5 livreurs dans la même semaine, c'est moins cool. Et c'est vrai qu'il y avait aussi quelques acteurs qui se positionnaient un petit peu sur ce marché de la livraison au même moment.
Ok.
Un peu sur ce principe-là, qui était allé quelques années avant nous en Chine. Et qui disait et qui avait déjà un peu d'avance sur le produit et des premiers clients, et en fait on s'est dit et puis il y a aussi une réalisation personnelle. Moi, je faisais beaucoup les interviews terrain, et même s'ils sont super sympas, c'est quand même une population où il y a quand même une réalisation de dire j'ai pas forcément envie de passer ma vie dans des boutiques de Pizza Hut et de sushi shop, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais il y avait un terme de pas forcément de fit et d'alignement personnel. Et en fait, on était quand même vachement du coup à l'écoute du marché. Et à ce moment-là, t'as une loi qui est passée où le gouvernement a dit aux entreprises. Alors là, les entreprises vraiment corporate et dans leur globalité, vous avez des salariés, vous les faites se déplacer pour venir au bureau, donc vous avez une responsabilité sur leur empreinte environnementale. Et donc vous devez mettre en place des solutions pour réduire l'impact environnemental des déplacements de vos salariés. Ça s'appelle le plan de mobilité durable, c'est une loi du 1er janvier 2018, et qui du coup tombait exactement où nous on commençait à tâtonner sur notre marché et à essayer d'identifier sur quel segment on allait aller.
Et juste, donc là, votre scooter électrique, votre prototype de scooter électrique qui n'a pas marché, vous l'aviez financé avec vos prêts étudiants là à l'époque ?
Ouais, exactement.
Exactement. Exactement. Le premier conteneur. Enfin, on passe aussi toute la paperasse
d'importation,
de qualité, de douane.
On a complètement
changé. Ça coûte combien de faire un prototype de scooter électrique ?
Alors, on était sur...
En gros. Hein.
En gros, je sais pas combien ça nous a coûté.
3000 par scooter.
Ouais,
un peu plus peut-être.
Alors, c'était pas un prototype.
Avec une
pré-étude, En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris c'était un modèle qui était déjà existant, ouais. Sur lequel, en fait, on est venu rajouter des specs techniques
okay.
Un peu sur mesure.
Mais t'as pas beaucoup de poids non plus face aux usines chinoises pour dire...
Mais là, c'était c'était de la démonstration, surtout.
Ouais, ouais. C'était arrivé à
on n'a pas construit un scooter. Et voilà. Et en fait, suite à ça, on a complètement changé de... un peu de business, de vision, en se disant voilà, on n'a pas envie d'être un importateur, on n'a pas envie d'électrifier des flottes pour des livreurs. Il y a eu d'autres facteurs ensuite d'entreprises qui nous demandaient s'ils pouvaient s'équiper en fait chez nous, dont l'entreprise Lacoste avec qui on a jamais signé, mais en tout cas qui nous a un peu lancé sur.
Qui nous a mis la puce à l'oreille.
Qui nous a mis la puce à l'oreille et.
Comment c'est arrivé ce rendez-vous?
Ce rendez-vous, c'est.
C'est du réseau. Ouais. J'ai commencé à tâtonner un peu sur ce sujet de mon plan de mobilité. Et il y a une personne dans ton entourage qui nous a dit, qui était un des directeurs immobiliers d'ailleurs, et qui nous a dit on est en train de faire notre nouveau siège et on regarde un peu ces sujets. Et qui nous a dit mais par contre, scooter un peu accidentogène, vous n'aurez pas des vélos ou des trottinettes. Et donc là, tu veux vendre ton truc, donc tu cherches des vélos et des trottinettes.
Si, oui,
bien
on
sûr,
en a.
Bien sûr qu'on a. c'est possible.
Des trottinettes déjà en 2018
Ouais.
Ok.
Et en fait, après, dans tout Starvol, toutes nos bonnes idées, elles sont venues de nos clients. Vraiment, et là pour le coup on a fait l'inverse de ce qu'on avait fait au début et vraiment bah donc on s'est mis à chercher des usines et on s'est rechangé un peu de calibre, on s'est dit qu'est-ce que nous on a à disposition dans nos ressources pour essayer d'adresser plutôt que d'aller chercher un truc qui était à l'autre bout du monde et c'est comme ça qu'en fait on est allé toquer à la porte d'un ami qui était dans notre master qui était le fils d'un des plus gros fabricants de vélos en France tout simplement et qui bah avec qui on était évidemment devenu copain d'école et avec qui on a pu demander écoute on aimerait bien vous acheter 10 vélos.
D'accord, oui, donc là vous étiez quand même sur l'idée on va prendre un modèle existant à ce moment-là parce que je pense que c'est une transition qui va être intéressante à c'est creuser ça. C'est comment on passe de donc là bon la cause vous met enfin il y a la loi du 1er janvier 2018 sur la mobilité durable un premier contact entreprise avec Lacoste qui vous met la puce à l'oreille sur tiens c'est peut-être pas le scoot c'est le vélo là vous actez un petit peu ce pivot là c'est pour essayer de répondre à Lacoste que vous allez chercher du vélo c'est
quoi ouais, c'est vraiment pour répondre à la demande marché
ok et donc là
complètement vous... et en fait derrière ça on sentait qu'il y avait quand même quelque chose autour de la mobilité qui était en train de se passer. Il y a un changement structurel des villes en ce moment où il y a des pistes cyclables et ça commençait déjà. Il y avait un peu des facteurs politiques avec la loi d'orientation des mobilités.
Si ce qu'on parlait en service, accélère.
Et donc il y avait un service qu'on souhaitait apporter aux entreprises autour de la mobilité, autour du vélo. Ça s'est de plus en plus affiné. Avec toujours cette notion d'abonnement, de service, de pas mettre des vélos et de pas les vendre, mais toujours d'avoir un package de services plus du produit.
C'était le moment où Vélib était down aussi, non?
À peu Vélib, près.
Non, c'était plus tard, ça.
Ouais, c'était un petit peu après.
Après, ouais.
Un petit peu après.
Mais... Ok, bon, désolé.
Non, mais t'as quand même pas mal de facteurs macro, etc. qui...
Et il y avait aussi toute la micro-mobilité, mais plus de free-floating qui arrivait aussi dans Paris. D'acteurs comme Lime, comme Jump, le service d'Uber. Mm-hmm. Et voilà, et on a un peu acté un moment, on va faire du Jump, du Lime pour les entreprises. On va pas mettre ça dans la rue, mais on va mettre ça dans les entreprises et on va essayer de faire en sorte que le maximum d'avoir un impact un peu systémique, c'est-à-dire que le maximum d'adresser les entreprises qui ont plein de salariés, qui se rendent au travail tous les jours et comment est-ce qu'on va les mettre en selle à vélo pour qu'ils puissent avoir des déplacements plus pratiques, plus rapides et que pour l'entreprise elle puisse activer sa démarche RSE, sa mobilité durable et c'est ça qui nous intéressait et sur lequel on travaille. Et d'ailleurs on a vu c'est passé d'un truc un peu sympa à voir pour des boîtes. Au début on nous disait c'est cool, c'est sympa pour nos salariés, mais en fait on voilà c'est un peu du nice to have. Et on a eu le Covid, et là, on a eu une explosion de la demande sur, sur nos clients, avec des clients assez précurseurs, assez déjà visionnaires, en fait, dans leur, pour l'anglicisme, un peu des early adopters, c'est-à-dire on a eu des Backmarket, des Alan, même LVMH qui est assez précurseur sur certains sujets avec des startups, qui nous ont demandé, en fait, de les fournir avec notre service de mobilité. Et on sent que là, il y a une vague qui est en train de prendre sur ce sujet-là, où ça devient quelque chose qui est indispensable pour attirer des jeunes talents, pour activer sa marque employeur, pour fournir un service intéressant à ses salariés. Donc on est vraiment
sur ce sujet-là. Il y a 2-3 petits trucs quand même qui se sont passés. Ouais,
j'ai vu ton regard qui a l'air de vouloir tempérer un peu ce que dit Edouard. Mais attends, juste, moi je m'en suis arrêté. Et merci pour la recontextualisation, mais... Ah, vous appelez votre pote. Ouais, ton père, il peut pas nous filer 10 vélos par hasard. Comment on est
Et en plus, on n'est pas du tout dans les heures minimum. Alors pour le coup aussi, dans la quantité minimum, donc un peu sympa. Il a fait passer le dossier et à un prix d'ailleurs hyper hyper attractif. S'il nous écoute, on lui dédicace d'ailleurs ce premier badge de vélo. C'est d'ailleurs toujours notre fournisseur. Ça a été plutôt facile. Donc on avait un petit peu d'argent qu'on avait avec notre prêt. On a pu notre prêt étudiant toujours. On a pu s'acheter ses premiers vélos. Mais surtout, on a pris un premier revers de commercial parce que Lacoste, on a fait 6 mois de relation pour lancer sur leur site. Plusieurs rendez-vous sur site, etc. Et en fait, là, j'ai pris ma première claque de négociation B2B, c'est que t'es sur le point quasiment de lancer. Et puis, changement de DRH. Balayage total de tous les sujets en cours. Et donc, retour à zéro, où on pensait qu'on allait livrer notre premier gros client avec une belle marque. Et ça s'est pas du tout fait.
Pour un test avec 10 vélos.
Ouais.
Dommage.
Ouais, dommage, ouais. mais a posteriori, tu te rends compte que en fait, t'es pas assez ancré, t'es pas assez engagé ton client. Enfin, il y a plein de choses mais t'apprends aussi. J'ai jamais géré une relation commerciale B2B. Par contre, on avait quand même assez activé notre réseau. On commençait à un peu, avoir une idée claire de notre offre. Je me souviens de cette formulation que t'as donnée. On voulait faire le lime et le jump des entreprises. On avait pas mal pitché ça, hein. Et en fait, on a eu un call. On avait essayé Backmarket, qui était une boîte qu'on suivait parce que réseau nantais aussi, Edouard étant nantais. Et puis aussi, positivement. Ouais, voilà, même valeur, etc. On a activé. Et les gars ont été très, très bons. Donc on les avait, j'avais un contact en intérieur de la boîte, j'avais essayé de les avoir. Ça avait pris un peu de temps. Et puis ils nous avaient recontacté. Donc Lacoste nous dit non en septembre 2019. Et eux nous appellent à peu près en nous disant, les gars, on va se pencher sur le sujet.
Ça tombe bien, j'ai dit vélo.
Ouais, exactement. Littéralement. Et ils ont été très forts parce que ils ont décidé de partir avec nous, donc déjà très très bonne décision de leur part. on les a livrés le 2 ou 3 décembre 2019, je me souviens très bien, la veille de l'annonce de la grève générale des transports à Paris, qui, si vous êtes parisien, vous en souvenez certainement, a foutu un énorme bordel à Paris en 2019 pendant quasiment 2 semaines, où tout le monde était paniqué, et il y a eu d'ailleurs une augmentation de l'usage notamment, je me souviens des potes qui étaient jamais montés sur un vélo électrique, qui se sont mis à utiliser le service de Jump dans la rue, etc. Et trop fort, les gars, la veille de ça, annonce à toute la boîte, on met en place des vélos dans l'entreprise, quoi. En appelant en plus, en brandant leurs vélos et en les appelant les recyclettes. Donc,
pas mal.
Grosse dédicace à Backmarket aussi, qui est un de nos premiers clients. Si ce n'est le premier vraiment client et market fit, où là on se dit on a une offre, ça y est, on tient un truc, on a une belle boîte, on sait qu'on peut reproduire ça sur d'autres typologies d'entreprises.
Et comment vous avez atterri sur le business model là, plutôt que de dire, parce qu'il y a sur cette proposition de valeur du fait que les salariés soient à vélo, tu pourrais dire en fait j'ai juste vendu les 10 vélos à Backmarket. Pourquoi cette idée de l'abonnement, c'était quoi, c'était un enjeu pour eux de tester, de pas trop s'engager, de pas avoir trop de coûts, de pas s'occuper des histoires de maintenance? C'était évident dès le début que c'était ça, ou
t'as tout compris?
Ça t'a bien résumé. Et puis on n'a pas inventé la roue, c'était, si j'ose dire, c'est un modèle de leasing en fait qui existe déjà pour les véhicules d'entreprise. Et donc ça faisait assez sens. Pareil, l'entreprise qui permet aussi d'étaler, tu vois, sous forme de charge. Donc voilà, ils n'ont pas du tout forcément envie d'être propriétaires de leur flotte. Donc ça faisait assez sens, en tout cas sur ce modèle vraiment de flotte que je mets à disposition de mes salariés.
Et donc le opérationnellement, ça se passait comment? C'est ils identifient parce que ça c'est la question peut-être que j'ai sur le côté un peu flotte. C'est est-ce que chaque vélo était identifié pour tel vélo pour tel salarié à ce moment-là, ou c'était vraiment le côté Lime les vélos ils sont en bas du bureau et puis chacun les prend, c'est au shotgun, et si tu rentres avec le soir tu dois juste le ramener le lendemain matin, quoi.
Voilà. On a rapidement quand même créé une application de réservation, enfin on a développé une application sur Android et Apple.
Ok.
Qui nous a pris beaucoup de temps aussi, et sur ça on a perdu pas mal de temps à se dire il faut qu'on ait des vélos qui soient connectés avec un cadenas connecté qui puisse être réservable.
Ouais, j'imagine.
Inspiré de. Mais, on va faire tout... le Lime et le Jump. Donc,
on va faire. Ouais, c'est ça.
Non, et surtout, ça répondait à un vrai pain point. C'est, comme tu l'as dit, demain, si je veux mon vélo dans l'entreprise, comme il n'est pas attribué à un salarié, il faut que je puisse m'assurer, si j'ai un rendez-vous, que je puisse vraiment le bloquer. Et donc, que tu aies un système de réservation. Parce que si tu dis on fout le vélo, ça va être l'anarchie, quoi. C'est littéralement les mecs vont pas rapporter le vélo, ils vont le cacher dans le moins deux pour que personne l'utilise.
Donc là vous êtes rentré dans le monde fabuleux des objets connectés et du digital d'un coup. Votre fabricant, il était habitué à ça?
Pas du tout. On a pris une boîte canadienne de cadenas connectés, on a développé ça sans moyens avec on a
une
fait
boîte
un peu...
de notre espace de coworking qui est pas du tout spécialisé là-dedans, mais qui avait un pool dev dans la boîte et qui s'était mis à faire quelques missions de conseil de développement parce qu'ils avaient trop de dev et il fallait qu'ils rentabilisent ça.
Toujours financé par le prêt étudiant.
Toujours financé.
Toujours financé. Et on a fait deux choses. On vendait quand même des vélos pour se faire un peu de chiffre d'affaires.
Ah, d'accord.
On en a vendu quelques-uns pour financer en fait des projets en interne.
À des particuliers, du
coup ? Ouais, des particuliers. Okay. Pas mal à notre famille et à des amis de nos parents.
C'est particulier, là.
Mais tu vois, ça a permis de générer 15 000, 30 000 euros. Donc, ça a permis de financer d'autres projets. Et puis, on a fait aussi une levée de fonds en BSAR, au tout début, qui nous a permis aussi d'amorcer d'autres projets pour l'entreprise, pour nous développer, pour qu'on puisse payer des premières personnes, pour qu'on puisse embaucher.
Donc, les BSAR, c'est un modèle de contrat d'investissement assez facilité parce qu'en fait, on se bat pas tout de suite sur les questions de valorisation de la boîte. On dit qu'on reporte ça au moment où il y aura les premières levées. Donc, pour des business angels, c'est plus facile...
Pour des gens qui sont OK pour que te dire aujourd'hui ta boîte elle vaut zéro, donc si on te donne 100 000 euros, on prend tout. donc on est OK pour attendre un petit peu et que vous fassiez un peu de business, mais vous donnez l'argent tout de suite.
C'est ça.
Donc c'est pas mal, ouais.
C'est
et puis il y a eu aussi la BPI qui nous a donné toute première subvention sur ce projet tech. Ça s'appelle comment déjà le...
Ouais, non, mais après, il y a des subventions qu'on peut aller chercher un petit peu, donc d'aller grappiller un peu d'argent à droite à gauche.
Donc vous avez réussi à...
Mais ça, c'est un point quand même important, ouais. Parce que c'était un gros dossier pour récupérer 4000 balles, un truc comme ça.
Ah ouais.
Mais pour financer de la tech, c'est Edouard qui l'a fait, et ça nous a permis, par contre, de mettre un premier pied dans la BPI et de créer une première relation avec eux, et du coup, de se faire connaître. Et ça, c'est aussi un gros conseil que je donne à ceux qui veulent se lancer, c'est la BPI, c'est juste absolument fabuleux. Et t'imagines, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Enfin, c'est un véhicule extraordinaire de développement. Ouais, pas comme ça. Mais par contre, tu peux pas débouler du jour au lendemain et dire toc toc toc, je voudrais des sous. Un peu en fait comme avec tout investisseur, il faut nouer une relation et les rencontrer le plus tôt possible pour que le jour où tu as vraiment besoin de beaucoup d'argent, tu leur dis c'est maintenant. Et donc c'était aussi un petit déclenchement, mais on a pu faire financer une partie de ce projet tech par la BPI. Et
projet tech, à savoir toujours le côté applicatif.
C'est application
de financer des vélos. Mais quand en fait de 2018 à 2020, c'est marrant de reprendre tous ces points-là, mais c'était vraiment une... En fait, on est parti sorti d'études sans argent, avec très peu d'argent. Et on a essayé de développer plein de projets, un projet produit. On avait des choses à acheter, des vélos à financer. On avait tout un service. On voulait aussi développer toute une application. Et ça a toujours été un peu une ligne de crête pour aller avoir de l'argent, enfin de faire un peu le plus possible avec le moins d'argent. Et on a, enfin c'est intéressant, ça permet de trouver des solutions, mais c'est un peu toujours, enfin c'est compliqué de développer. Ça a été compliqué de développer pendant 2 ans.
Pour les avoir, les 4000 euros, on a bien
on a bien ramé, donc voilà.
Ils ont
challengé en fait,
le truc, mais dans tous les sens. C'est... Mais je vois pas l'innovation dans votre projet, les gars.
Ça paraît des montants un peu dérisoires comme ça, au fil du temps. Mais finalement, c'est des montants. C'est toujours plus compliqué d'avoir ces premières sommes, en fait, d'avoir ces premiers 5 000, 10 000 euros. Même, je me souviens, la première fois qu'on a facturé un client, le chèque était dérisoire. Je crois que c'était 150 euros et c'était même pour une prestation de service, c'était même pas pour un vélo. Mais rien qu'en fait de se dire, ça y est, en fait, au tout début, tu mets ton premier chèque. Et en fait, c'est ces moments-là où tu as ta première subvention, tu as ton premier chèque, tu fais ta première facture. Et ben voilà, tu commences à... C'est un peu ces débuts-là où tu commences à être une boîte. Et donc, c'est toujours marrant de revenir sur ces premières choses qui nous permettent... Enfin, qui sont... Voilà, c'est des petits montants, c'est les premières choses, mais qui ça...
Ouais, ça
c'est compliqué à voir.
Mais justement, ça fait peut-être... Enfin, tu parlais de MVP et de... Ensuite, on a tout fait au contact de notre client. Finalement, vous n'avez pas choisi la voie de la complexité en allant tout de suite sur le côté applicatif, vélo connecté, etc.
Tellement.
En fait, c'est
malade.
C'est compliqué, mais ça permet d'en être là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a quand même amorcé des projets assez tôt. Qui sont finalement compliqués, qui nous ont fait monter en compétence sur certaines choses. Mais c'est sûr qu'en fait, c'était une succession en fait, de choses qu'il n'aurait pas fallu faire, de développer toute une application. Alors, au tout début, on n'aurait jamais dû attendre 8 mois pour avoir notre premier scooter et le mettre dans les mains. Et en fait, on l'a compris, et ça, on avait Vivatech en 2017 ou en 2018. On a ça c'était
attention disclaimer.
C'était un beau hack. En fait, on avait zéro scooter, zéro vélo, zéro. Je reviens un petit peu en arrière. Zéro trotte. Et en fait, on est parti chez Decathlon. En fait, on n'avait même pas en fait suffisamment d'argent pour acheter un vélo, scooter et trottinette. On a pris.
Non, on a pitché. Donc Vivatech, c'est des grands comptes qui font des énormes stands où ils mettent en avant des startups qui répondent à leurs besoins en business. On a répondu à une des taglines de Accor sur comment générer de nouveaux revenus, et on leur a dit en fait les gars, dès que vos clients sortent de votre hôtel, vous générez plus de revenus, nous on vous propose de monétiser la mobilité de vos collaborateurs, de vos clients avec une solution 3 en 1, scooter, trottinette, vélo connecté, etc. Je parle, il y avait rien derrière. Mais par contre ils ont carrément adhéré à l'idée et donc là, pardon, je t'ai coupé, mais
et donc on allait chez Decat, choper des vélos, choper des trottes, mettre un stand avec des...
On les a pas achetés, hein. On les a empruntés pour une thèse de 3 jours.
C'est vrai.
Et on est allé au plus gros salon de la tech et de l'innovation d'Europe. Avec,
et on a eu vachement de retombées avec ça. Et c'était
un de nos premiers clients
via ça. Et en fait, c'est cet état d'esprit. Et on a aussi fait, on avait fait un gros salon de la mobilité. On n'avait pas d'argent pour se mettre... payer un stand à 3 ou 5 000 euros. Et en fait, on s'était mis juste devant, toujours avec les mêmes vélos Decathlon, qui n'étaient pas notre vélo.
Que vous étiez retourné prendre, du coup.
Qu'on était retourné prendre.
On avait changé de Decathlon quand même, parce que le mec, il allait nous reconnaître.
Et encore vous.
Et on s'était mis juste devant en fait, ce salon de la mobilité. On avait mis une table, on était vraiment dehors.
C'était l'automobile et l'entreprise.
Et bref, en fait, on s'est mis devant et on a complètement hacké le salon, c'est-à-dire que tout le monde passait devant nous, tout le monde a pris, on avait fait imprimer des petits prospectus pour...
du salon vous ont laissé là.
Ils ont assez dégagé rapidement, mais on s'est mis un petit peu plus loin. Enfin, après, on a joué au chat à la souris un peu pendant tout le truc. Voilà. Mais il y a une photo qui est assez rigolote de mettre devant nous. Ouais. Et en plus, à l'époque, dans le monde de l'automobile... Et ils étaient là, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Enfin, qui vous êtes avec vos vélos? Enfin, vélo dans l'entreprise, mais ça n'existe pas, ça. Et ça, c'est assez drôle aussi.
Et Accor, pourquoi c'est pas allé plus loin que vous maintenant?
Non, Accor, c'était pas allé plus loin. Pourquoi? Parce qu'Accor a changé d'actionnariat et de modèle, où ils sont passés à un modèle de franchise. Et nous, on a vu le top management, d'accord, mais derrière, ils nous ont dit, allez voir d'abord nos hôtels, faites du bottom-up plutôt que du top-to-bottom. Et en fait, là, on s'est dit, OK, soit on va vers les hôtels, soit on va vers les entreprises. Et voilà, il y a un moment où il faut aussi faire un petit peu des choix. Et donc, on n'y est pas allé parce que ça semblait très compliqué, très chronophage d'aller discuter avec chaque hôtelier, qui sont des gens qui sont très, 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 très pris. Enfin, ils sont vachement dans le run. Voilà, on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Mais on a eu beaucoup de visibilité, beaucoup de retombées. Premiers articles et premiers clients.
Trop cool. Donc, alors, je ne sais plus où reprendre.
On était à Back Market.
Parce que Vivatech, c'était pas mal de temps avant, du coup, c'est ça ?
C'était une année avant, oui.
Ah, c'était une année avant. Ok.
Et donc, tout ce côté, tu posais la question en fait, de la complexité en fait, oui, de passer sur du produit, du hardware. Et on a mis du temps en fait à comprendre, même si c'était avant, voilà, il y a des choses qu'il faut faire, il faut un peu hacker certaines choses, de le faire sans produit ou en tout cas avec d'autres produits, mais de toujours en fait avoir cette perspective, voilà, comment il faut le vendre rapidement ou en tout cas qu'est-ce que le client est prêt à acheter. Et en fait c'est cet équilibre fin à trouver entre ok, comment est-ce que j'arrive à avoir une offre commerciale qui puisse se vendre, tout en développant aussi en parallèle des choses sur comment est-ce que tu vas emmener ta boîte à l'étape d'après. Et donc c'est s'engager dans des projets qui sont parfois un peu longs, de développement d'applications, d'objets connectés, où il y a toujours des bugs, t'as pas les moyens pour que ça aille vite, tu fais tout un petit peu à l'arrache, t'as sans budget. Donc voilà, c'est trouver cet équilibre entre eux, et on a commencé à le trouver en fait, avec ses premiers clients, et voilà, on s'est dit ok, en fait on s'en fiche de pas avoir notre produit fini, parfait, comme on le voudrait, comme un vélo Lime qui est dans la rue, où finalement t'as eu quand même pas mal de R&D avant sur le produit, pas mal de tests, mais c'est comment déjà on met un vélo qui n'est pas connecté, qui se loue, et puis ensuite de bosser sur des autres sujets en parallèle.
Donc, fin 2019, il y a les grèves. Début 2020, il y a le Covid.
Premier client, fin de décembre. Là, on est OK, on est lancé. On va mettre des vélos dans toutes les entreprises. Et la grande claque, donc Covid, sachant que sur notre première offre, on était vraiment sur ces vélos partagés dans l'entreprise que tu viens en tant que salarié, tu peux prendre grâce à l'app, tu réserves. Mais donc, il faut venir dans les bureaux quoi pour pouvoir prendre les vélos.
Oui.
Et donc là, ça a été assez challengeant parce qu'on venait de commencer à faire un petit peu de chiffre d'affaires et on n'avait pas beaucoup de trésor. Et assez stressant, et il y a eu deux trucs, c'est que on s'est mis à bourriner sur plein de process en bac pendant le, mais on était quand même super stressé. Il y a une petite histoire, quand même une petite anecdote, où on a maintenu toute l'équipe. On était pas beaucoup, hein, on était 6, pas beaucoup plus. Mais bon, en fait, ça te fait déjà quand même du burn. Et ensuite, dont un mécanicien qui n'avait plus de job, littéralement, puisque il y a plus de véhicule, il y a plus rien qui se passait. Et sur qui on pariait, en fait, déjà depuis 8 mois, on faisait travailler, même si on n'avait pas beaucoup de véhicules, mais en se disant, bon, voilà, au moins il sera prêt, il sera formé le moment venu. Et qui commence à nous dire en plein Covid, bah moi en fait je suis stressé, il faut que je me projette, situation stressante, en fait j'aimerais passer en CDI quoi. On était sur un modèle de, il était auto-entrepreneur. Et donc on state et on n'avait toujours pas beaucoup non plus de CA. Et là on décide de lui faire une proposition. On prend le pari et on lui dit ok, premier CDI, bon ça fait déjà 8 mois qu'on mise sur toi, mais ok go, on te fait confiance. Et là il revient vers nous et il nous dit en fait je refuse votre proposition et je vais bosser dans la boîte d'en face de notre espace de coworking.
Ah.
Et là on était vraiment mais sur les fesses. En fait c'était un des premiers coups durs. Mais on a eu stop and go, c'est-à-dire que c'était stop et on a tenu, on a serré la ceinture. Mais on a explosion de la demande sortie de Covid avec les transports en commun qui sont hyper anxiogènes pour tout le monde. Les entreprises qui cherchent à faire revenir leurs salariés au bureau sur ce premier déconfinement. Et donc une vraie recherche d'alternatives. Donc notre solution Alors, vous pas totalement adapté.
Vous l'aviez anticipé ça pendant les 2-3 mois du premier confinement ?
Pas du tout. À l'époque, tu sais plus où on allait.
On n'anticipait rien du tout. On avait oublié
de l'anticiper. Toutes les semaines, sous les 15 semaines, on nous disait, en fait, on reprend une semaine, on reprend 15 semaines. Je savais pas du tout.
Vous êtes pas dit, ouais, là, c'est notre moment.
Et en plus, le pire, c'est qu'on pouvait même pas faire de PGE, nous, parce qu'on avait tellement pas de chiffre d'affaires que.
Prêt garanti par l'État, les prêts qu'il y avait
pendant. Qui était calculé, du coup, en pourcentage de ton chiffre d'affaires. Ah. Comme on en avait tellement pas qu'on n'avait pas d'aide, qu'on était éligible à rien et on a vraiment cru qu'on allait. On a eu un peu peur, mais explosion de la demande. Mais par contre, explosion de la demande sur pas notre produit tel qu'il est aujourd'hui, parce que finalement les gens reviennent dans l'entreprise, mais pas tant que ça non plus. Et là, il faut qu'on se réinvente en fait. Il faut qu'on pivote, il faut qu'on trouve un moyen de faire du business.
Oui, parce que là, c'était toujours, vous étiez toujours sur les flottes qui étaient présentes.
Exactement. Et là, donc, on s'est dit, ok, les gens, on peut pas les atteindre par le bureau. Comment est-ce qu'on peut les atteindre? Et ben, c'est en proposant une offre. On a des vélos, en proposant une offre individuelle pour les salariés. Et donc, une sorte de vélo de fonction, qui se transforme en vélo par abonnement. Et là, même service, maintenance, équipement, assurance, mais en passant par l'entreprise pour toucher les salariés. Mais c'est plus un pool de véhicules, mais c'est chaque salarié peut faire la demande de son vélo. Et là, c'était top parce qu'on a eu un deuxième, market fit immédiat où on a eu d'autres premiers clients, Foodles, Alan, Foodles qui nous a même pris des vélos partagés, des vélos individuels, qui sont toujours des clients actuellement. Et en fait, qui sont donc toujours dans cette typologie d'entreprise, c'est-à-dire entreprise à forte croissance, start-up qui comprennent complètement ces enjeux de marque employeur, qui ont des gros enjeux de recrutement et qui doivent faire valoir davantage pour les salariés, avec aussi des populations assez jeunes, sensibles aux sujets environnementaux, et aussi une appétence pour travailler avec des startups, un temps de décision assez court. Donc vraiment confirmation quand même de notre market fit, pivot un peu avec une nouvelle offre montée sur le tas, mais qui a trop bien marché, qui a méga plu. On a eu des super retours vraiment chez Alan, c'était fou.
Alors juste pour clarifier un point, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait là vous faites un peu du B2B2C,
oui.
En gros, c'est-à-dire quoi passer par les entreprises pour atteindre les salariés? C'est-à-dire que, enfin, du point de vue du salarié, c'est quoi? C'est que c'est la boîte qui va dire salut, on vient de faire un partenariat avec Starbolt, si vous voulez un vélo électrique, dites-nous.
C'est pris en charge à 80%. Exactement.
On a deux modèles sur ça. Soit l'entreprise, et ce qu'on faisait au début et ce qu'on a fait avec Alan, dit voilà, j'ai 100 salariés, je vous prends 30 vélos et je les attribue à mes salariés, je vous loue, l'entreprise loue elle-même les vélos. Ça, c'était notre première manière de fonctionner, mais on s'est rendu compte que il y avait très peu, en fait, c'était compliqué d'augmenter le parc après. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition une plateforme dans l'entreprise où chaque salarié en fait peut souscrire à son abonnement et se faire rembourser par son entreprise.
D'accord. Okay.
Donc voilà, on a un peu switché en fait la personne qui nous paye, on switch un petit peu. C'est plus l'entreprise, mais c'est le salarié pour qu'il ait son vélo personnel.
Ok. D'accord.
Voilà un petit peu sur l'offre. Et aujourd'hui, c'est une offre qui est solide et sur laquelle on capitalise et sur laquelle maintenant on a des clients, on a pas mal de clients et qui fonctionnent.
Et donc là encore, vous avez dû développer une plateforme spécifique.
Voilà, mais c'est plus facile. Enfin,
ouais. C'est venu après.
Et c'est venu après aussi. On n'a pas sorti tout de suite la plateforme. Ouais. C'est d'ailleurs Alan qui est venu nous voir.
Une fois que tu as tes premiers clients là, qui arrivent déjà, Alan, etc., ils reviennent, c'est eux qui viennent vous voir? C'est vous qui êtes allé retaper à la porte au déconfinement?
Alan, c'est un inbound, ouais. C'est un inbound, ils faisaient un peu leur benchmark. Pareil, assez précurseur, hyper sensible au sujet de quels avantages on propose à nos salariés dans l'entreprise. C'est leur produit, hein. Donc le bien-être des collaborateurs, c'est aussi un sujet qui les touche. Donc ça faisait vachement sens et ouais, ils font partie des early adopters qui comprennent tout de suite ces enjeux.
Et ensuite, la chasse, pour aller chercher d'autres clients, vous l'avez structuré comment?
Alors, la chasse B2B, c'est moi qui m'en occupe pas mal dans la boîte et on teste plein de choses et clairement le vecteur aujourd'hui le plus efficace, c'est la mise en relation dans notre réseau, d'identifier une personne dans la boîte sur LinkedIn, d'avoir nos contacts de gens qui sont dans des boîtes. Alors en plus, sur les scale-up, on avait pas mal de voilà, c'est des jeunes populations, donc c'est des gens de notre âge qui sortaient d'école, qui rentraient dans ces boîtes-là, donc on a pu aller les contacter, nous mettre en relation. Parce que c'est l'énorme frein en B2B, c'est avoir le bon décideur, le bon interlocuteur en face. Et puis après, bah, c'est comprendre quels sont un peu tes personas, donc qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus appétents au sujet. Foodles, typiquement, pareil, bien-être au sein de l'entreprise. Donc tu capitalises un peu là-dessus et tu essaies de trouver un trend sur lequel tu peux.
Et c'est qui la cible dans l'entreprise? C'est plutôt les RH, c'est les où vous tapez
RH,
directement
DRSE, office manager, et ça peut aussi être les services généraux, mais voilà, RH, RSE.
Et vous tapez pas je dirais entre guillemets plus haut, c'est-à-dire
ou
CEO.
Et après, plus tu montes dans la taille de la boîte, plus en fait c'est assez marrant parce que tu parles avec des décideurs, avec le chef d'entreprise jusqu'à 50 personnes. Au bout de 50 personnes, il a un RH, donc tu commences à parler avec le RH et lui il a plus le temps de gérer ses sujets, ou si tu lui parles, il envoie au direct au DRH. Ensuite, tu parles donc avec RH office manager jusqu'à une certaine taille de boîte. Et puis en fait après t'as des RRH, t'as des voilà des sous profils qui vont être en gestionnaire de projet. Et alors là, plus la boîte est grosse, plus il faut aller taper haut parce que c'est tellement long dans le cycle de vente, et ça on s'en rend compte, hein, des boîtes de là on a des clients 1000, 5000, 8000 personnes, 10 000 personnes même, et là c'est clairement pour que des projets avancent, c'est le top management qui dit on veut le faire.
Et ensuite, j'imagine que si vous tapez des boîtes de 1000 personnes aujourd'hui, vous avez quand même un enjeu ensuite de pénétration dans la boîte. Parce que pourtant, t'as un gros vivier de collaborateurs, mais il y a une logique de comment tu fais le marketing en interne de ta solution pour la boîte. Comment vous craquez ça? C'est quoi les leviers?
Alors, de 2020 jusqu'à à peu près maintenant, c'était beaucoup de l'acquisition de nouveaux clients. Donc en fait, on allait chercher pas mal de nouveaux clients pour mettre une petite flotte dans l'entreprise, même toucher peu de salariés. Et là, on a une personne qui va développer tout le service d'account management. Donc c'est comment est-ce qu'une boîte de 1000 personnes, on va passer de 10, 30 à 20 salariés. Et là, comme tu le disais, il y a toute une partie marketing, de communication en interne qui est indispensable pour que les gens puissent connaître le service et se mettre à vélo.
Et alors, c'est quoi les leviers là-dessus?
Il y en a pas mal qu'on teste. Là, on lance une grosse.
On a quand même quelques réponses. En fait, c'est là tout notre métier. C'est de comment est-ce que tu fais pour mettre les gens à vélo. Donc, t'as les premiers qui s'y mettent. Et ensuite, t'as comment est-ce que tu vas lui dire, tiens, regarde, c'est super de se mettre à vélo. Et là, c'est aller dans l'entreprise et les faire se mettre en salle, littéralement. Donc, on fait des ateliers. On fait des formations, on accompagne des gens à rentrer chez eux à vélo, tu vois, on fait leur trajet avec eux. C'est idiot, mais on met les petits trous quoi. Donc t'as tout un travail de communication, et on a testé beaucoup de choses et on commence à avoir vraiment une expertise sur quels sont les leviers qu'il faut impliquer dans la boîte. La gamification est un outil ultra puissant pour ça.
Trouver des ambassadeurs, ça c'est.
Trouver des ambassadeurs. On va pas livrer toutes nos recettes magiques, mais.
Pourquoi tu dis la gamification est un outil ultra puissant pour ça? C'est quel type de gamification? Parce que ça, je mets le point parce que c'est un mot qui est souvent utilisé et parfois utilisé d'ailleurs comme un rêve de mon acquisition marche pas, je vais le gamifier et ça marche et ça va marcher. C'est un peu un piège de l'entrepreneuriat parfois, donc je veux bien que tu détailles.
Ce que les gens aiment, c'est être un peu mis en compétition.
Okay.
Dès qu'il y a cette notion de jeu, ça devient tout de suite plus sympa. Et ça, on essaye de beaucoup l'exploiter, enfin de plus en plus l'exploiter, et ça passe par des choses toutes simples. C'est qui fait le plus de kilomètres dans le mois et de récompenser le salarié qui aura fait le plus de kilomètres. Donc c'est par ça qu'on parle de gamification. Là, on est en train de faire tout un système de récompenses, donc de points. Au bout d'un certain nombre de kilomètres, tu gagnes des récompenses. Et ça fonctionne beaucoup. On a lancé sur 2 années Mets à vélo, où là, on prenait 10 entreprises, où ces 10 entreprises pouvaient mettre 10 salariés sur des vélos Starbolt gratuitement. Et on a mis ces entreprises en compétition, c'est-à-dire que c'est 10 salariés de faire plus de kilomètres que les 10 autres de l'autre entreprise. Et ça fonctionne super bien. Et on a des personnes qui, du coup, aussi prenaient le week-end, les passaient à leurs enfants pour qu'ils puissent aussi faire des trajets pour aller à la boue. Enfin bref, sur plein de... Et ça fonctionne beaucoup.
Ok, ouais, c'est marrant. Et
alors est-ce qu'on l'utilise à tort ou est-ce qu'on on l'utilise à tort ou...
Ah non, je disais pas que vous utilisiez le mot à tort.
Non,
je disais que certains entrepreneurs parfois sur leur sur leurs applications, sur quoi se disent, oui, pour augmenter la rétention, je vais juste faire de la gamification en disant, vas-y, je vais mettre un petit système de points et ça va régler les trucs par magie. C'est un peu l'idée quand t'as plus d'idées d'un point de vue UX, je trouve. C'est pour ça que je mets toujours un... la gamification, c'est bien, mais quand ça marche, faut pas tout miser dessus. Quoi.
Et puis nous, on a un produit qui est quand même hyper autour de...
De l'effort.
Et ouais, de la... voilà, le sport, c'est du jeu, ouais, exactement. Donc, et d'ailleurs, on essaie vraiment de véhiculer c'est une de nos valeurs dans la boîte et auprès de nos clients de passer un bon moment, ce côté hyper joyful, de faire passer un bon moment à nos clients, de s'éclater aussi dans ce qu'on fait dans la boîte, avec tous nos collègues. Moi, j'essaie de plus en plus, c'est un truc que j'essaie de craquer, j'ai pas encore de réponse, mais comment est-ce que tu fais, dans le sport, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne vachement bien, c'est quand tu arrives à franchir des petits paliers régulièrement. Et qu'on t'encourage et qu'on te félicite un peu à l'américaine où tu vois, dès que tu réussis un truc, dès que tu arrives au bout d'un exercice, ça cheer up, on est à fond, et ça, je trouve que c'est hyper puissant, et d'ailleurs c'est un des trucs qu'on n'a pas forcément encore totalement réussi à mettre en place en interne, mais dans l'entrepreneuriat on dit souvent il faut célébrer les petites victoires. Et en fait, moi, je me suis toujours dit ça, ouais, mais en fait, mec, il faut délivrer. Et en fait, il y a un moment, tu célèbres jamais, en vrai. Et c'est pas autant de se dire, bah, tiens, on a encore fait ça, parce que t'es jamais parfait, t'as jamais ton produit, t'es toujours des nos objectifs, t'as toujours un truc qui est pas terminé, t'as toujours un client qui est pas encore content. Mais par contre, d'essayer de se féliciter des petits trucs, te dire, putain, là, on a, enfin, bravo les gars pour ça, bravo les gars, et un peu presque ultra positivisme. Je trouve que ça, c'est super puissant. Et si on, là, j'essaie de me dire comment est-ce qu'on peut le mettre, tu vois, même dans les jobs de chacun des équipes, pour que, bah, chacun atteigne, tu vois, quand tu formes aussi, quand t'es en période d'essai, t'atteignes des petits achievements, des petits succès qui font que ça te donne confiance et en fait, tu deviens meilleur.
Bah, tu peux mettre une bouteille de champagne en prix pour celui qui perd tous les mois.
Et là, tout le monde est content.
Nous, on a commencé à mettre ça en place.
Et c'est quoi le prix? Enfin, c'est quoi le jeu?
Une bouteille de champagne pour celui qui va chercher la plus grosse mission.
Ok. C'est pas mal. Non, c'est bien.
C'est un jeu comme un autre.
Mais ouais, mais...
faut tester, c'est marrant.
Mais je me souviens d'un exemple d'une copine qui on prenait un café un dimanche matin et vraiment sur des sujets perso, etc. Et on était dimanche matin, quoi, un peu en gueule de bois, et on débriefait, et là elle me sort son téléphone et elle me fait oh non, ils nous ont dépassés. Et en fait, c'était elle me montre son truc Strada où ils ont fait un concours de pas inter-entreprise. J'étais, putain, la meuf, le dimanche matin, elle est en train de se préoccuper de sa course inter-entreprise et de voir. J'étais, waouh, la puissance du.
Ouais, ok. Donc, ça,
truc.
C'est des leviers que tu te dis, faut qu'on active. Ouais, ok. Ouais. Bon, parenthèse sur la gamification fermée. mais merci d'avoir illustré.
On est en train de délivrer tous nos secrets à nos concurrents.
mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même si je suis sur l'offre, c'est moi en tant que salarié qui a un peu demandé mon Starball, donc pas sur l'offre flotte. Il y a quand même une composante digitale forte, c'est-à-dire Starbolt, il y a un peu cette logique de, bon, j'ai mon Starbolt et j'ai mon app qui va avec. Est-ce qu'il y a aussi ces features, je sais pas, de cadenas connectés, tout ça, ou ça c'est où vous avez finalement deux produits, deux typologies de vélos, comment ça se passe?
On a deux offres distinctes, les vélos connectés all included, assurés, entretenus pour l'entreprise, et tu te prends pas la tête en tant qu'entreprise, tu le mets à disposition de tes salariés, ils peuvent l'utiliser. Et on a ton vélo perso, et là c'est sous palier en fait d'options. Pourquoi? Parce que y en a qui ont déjà un casque chez eux, y en a qui préfèrent faire un peu moins avoir un abonnement qui est un peu moins cher parce qu'ils sont juniors et qu'ils sont hyper price sensitive, d'autres qui ont un profil beaucoup plus senior dans la boîte et qui sont prêts à donner un peu de tranquillité d'esprit.
Mais vous avez aussi ce côté applicatif pour les gens qui ont leur propre vélo ou pas?
On est en train de le mettre en place.
Vous êtes en train de le mettre en place.
Ce sera live
avant la fin de l'année, là.
Ah.
2023.
Grosse. Ah bon? Waouh!
Tout le monde n'est pas au courant.
Les prochains vélos, ouais, seront connectés.
Donc là, là vous me disiez, vous êtes une dizaine dans la boîte, c'est ça?
Ouais, un peu plus, 15, ouais.
Un peu plus, quinzaine, super. Comment vous répartissez les... Je pense que c'est une question intéressante. Depuis le début de l'histoire de la boîte, comment vous vous êtes réparti les tâches et aujourd'hui, ça atterrit sur quoi?
Alors, Hugo, lui, s'occupe de toute la partie commerciale business. Et moi, je m'occupe plus de la partie organisation, structuration, stratégie à court, moyen terme, long terme.
Et c'était comme ça dès le début, entre guillemets, ou ça s'est décanté progressivement?
Ça a été mis sur le papier. D'ailleurs, je retrouve un document Excel où on l'avait marqué au tout début, même avant de monter la boîte. Et finalement, c'est resté dans le temps. Après, les missions sont élargies. On a des missions de management assez transverses. Enfin, on fonctionne beaucoup en binôme. Et ça a beaucoup de plus-value sur certaines choses, sur certains sujets. Mais on a quand même nos zones de compétences assez distinctes. Hugo est très bon commercial. Il fait du... Enfin, voilà. Et tout en partie structuration, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est comment monter une équipe, comment rémunérer cette équipe, comment trouver les sources de financement pour la faire, comment lancer un produit. Donc c'est... donc voilà. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'on fait à deux sur cette entreprise.
Et le reste de la boîte, c'est quoi les gros pôles?
Pôles, on a un pôle... donc nous, on a des vélos. Donc il y a toute une partie maintenance et on a un chef atelier qui est là depuis le début, qui était un ancien resp atelier de chez Jump, qui est venu chez nous.
Grande dédicace à Alaïdine, d'ailleurs. Premier
CDI dans l'entreprise. Et ensuite, on a toute une équipe commerciale aujourd'hui. On a une équipe opérationnelle. Enfin, une équipe, on a une personne en opération. Et voilà. Et là, on est en train de... Là, on a un parc d'un peu moins de 1000 vélos qui tournent. On va passer à 2000 et on a une grosse stratégie de financement et d'acquisition d'avoir 20 000 de roues là, d'ici fin 2024. Donc, on est... voilà, ça se prépare longtemps à l'avance, les commandes, comment est-ce qu'on fait financer ces vélos-là et comment est-ce qu'on va mettre l'équipe derrière pour faire le support client, pour pouvoir stocker ces vélos, pour pouvoir se développer dans toutes les villes françaises. Donc il y a beaucoup de choses sur une partie produit, d'avoir du stock et de la logistique, beaucoup de choses à anticiper et quelle équipe on met derrière et comment on trouve cet équilibre entre la demande existante et préparer la demande future et d'arriver un petit peu à trouver... le juste milieu pour qu'on puisse être dans une optique d'être assez rentable rapidement.
Parce qu'en plus, en effet, dans une logique d'implantation ville par ville, vous avez besoin d'avoir à chaque fois, j'imagine, des ateliers de...
C'est ça, de réparation, de maintenance. On s'appuie sur des partenaires aujourd'hui. Ouais. On essaie de trouver un peu des solutions. On n'a pas eu la recette magique. On trouve les opportunités. On a parfois dit non dans des villes où c'était pas possible. Là, on va se développer dans pas mal de villes en France là, sur l'année 2023.
C'est quoi les villes où vous êtes bien installé? C'est quoi les perspectives là,
Paris, Nantes, et Lyon et Bordeaux.
Ouais.
Et là, sur 2023, on va aller c'est dans les 10 plus grandes villes de France. Lille, Toulouse, Rennes, Bordeaux, j'ai déjà cité, Grenoble. Toutes celles un peu importantes dans lesquelles en fait, on retrouve ce sujet... on voit les gens changent d'usage.
Ouais.
Et puis on se déploie aussi avec nos clients. Donc là, on signe un contrat.
Ils sont à travers plusieurs villes et qui,
exactement.
Qui vous emmènent en fait.
Ouais, c'est ça. On grandit vraiment.
C'est les meilleurs moyens de se développer. On n'est pas forcément prêt à chaque fois de toute la logistique sur place, mais c'est. ça nous pousse en fait. En fait, ça nous pousse à être prêt dans des projets, on connaît tous, si on a une deadline qui est à long terme, en fait, tu n'y vas pas forcément, tu prends beaucoup de temps à le faire. Là, de se développer dans 5 villes dans un mois, ce qui est notre cas aujourd'hui, on a trouvé des solutions beaucoup plus rapidement pour pouvoir se développer. Et ça nous pousse à être très dans l'opérationnel du projet.
Oh non, on en discutait avec Edouard il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que c'est un principe de fou, mais ça marche. C'est complètement débile, mais le biais cognitif de se dire je me mets un objectif qui est complètement inatteignable et en fait j'arrive à atteindre les 75%, alors que si je m'étais fixé 25% de cet objectif, peut-être que j'aurais atteint 24%, mais je serais toujours loin de mes 75%, quoi. Je pense que c'est un vrai truc à avoir, pas avoir peur de se dire on s'en fout, on va tout casser, on va aller chercher hyper loin et en fait tu te rends compte que t'arrives à le mettre en place somehow, mais tu t'y arrives,
ouais. Ouais, ça tire vers le haut, quoi.
Ouais.
Se mettre des objectifs ambitieux.
Alors c'est pas toujours cool, hein, quand le directeur financier de la boîte te dit en fait on va pas faire 20 000 vélos, on va en faire 200 000. Niveau commercial, tu te dis putain, comment on va faire.
Et ok, donc là, et oui, vous avez parlé tout à l'heure de la levée de fonds. Vous avez levé 2 millions, c'est ça, il y a pas très longtemps. Déjà, peut-être auprès de quel type d'acteurs ? Parce que tout à l'heure, vous disiez que bah, finalement, les banques peuvent financer ce genre de choses. Mais là, je crois que sur cette levée-là, vous êtes allé un petit peu au-delà. Et c'était quoi l'ambition de cette levée ? Comment c'est arrivé ? À quel moment vous vous êtes dit aussi, ok, là, c'est le moment de lever ?
Il y a un marché qui se structure autour de la mobilité. Donc, il faut absolument... recruter et y aller un petit peu. Enfin voilà, aujourd'hui on a besoin, on a une offre commerciale qui fonctionne, on a un produit qui fonctionne, ça plaît, on a des clients et c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on accélère. Donc c'était vraiment dans cette phase d'accélération. Cette levée finance pas du tout les vélos, mais uniquement des ressources humaines, matérielles pour pouvoir avoir des budgets marketing, communication, de recrutement. Donc principalement sur ces postes-là. Et aussi, ça nous permet d'avoir des fonds propres pour pouvoir aller financer des flottes de vélos pour nos clients.
Okay.
Et auprès de quelle typologie d'acteurs ? On a décidé de s'entourer avec des... Un, on a la moitié qui est par des fonds d'investissement. Mmh. Et l'autre moitié, c'est 10 investisseurs privés qui sont tous entrepreneurs, qui ont tous des pieds dans l'entrepreneuriat, qui nous apportent des conseils sur assez transverses, sur du management, sur la constitution d'équipe, sur de la logistique. Donc c'est des conseils qui sont super précieux pour nous. Donc voilà. Donc on les...
Ça c'est un énorme retour aussi. Aller voir d'autres chefs d'entreprise et demander-leur quoi, s'ils sont pas intéressés de vous aider. C'est ça qui est assez fou. Même si t'as une micro boîte, tu deviens dirigeant quand tu deviens entrepreneur. Et il y a quand même tu peux sauter très vite des échelles interagir avec des interlocuteurs super high level. Parce que déjà, il y a un peu une bienveillance, on sait qu'on est passé par les mêmes galères. Et puis, un respect mutuel, du coup, qui s'installe. Et ça, c'est tellement. Enfin, ils te font gagner tellement de temps sur. Et c'est eux qui ont les bonnes questions, parce qu'ils ont. Dans les challenges, c'est eux qui voient toujours les petits points, ou qui ont les bons conseils, les bons contacts, qui savent tout de suite que, en fait, toi, il faut que tu fasses du business, donc ils te font les bonnes intros au business, par rapport un peu à tout ce qu'on peut entendre. Parfois, en disant le smart money, on va vous apporter beaucoup, etc. Ou c'est toujours un peu relatif. Si vous pouvez, essayez d'aller voir rapidement des business angels chefs d'entreprise.
Ou en tout cas, qui ont des compétences clés sur ton secteur. Mais,
ouais, en adéquation avec ton
secteur aussi. Aller faire intégrer le projet, ouais.
Ok. C'est quoi les prochaines étapes là ? Bon, on en a un petit peu parlé. L'expansion dans les villes, passer à beaucoup plus de vélos. Comment vous allez, structurer ça ou attaquer ça ? Ou c'est quoi la vision derrière ?
Bah, l'idée très claire, c'est d'être dans toutes les grandes villes françaises, mm-hmm. dans des villes européennes aussi. Donc il y a un plan de déploiement qui est fixé dans toutes ces villes-là. Comment est-ce qu'on construit, on fait un maillage du territoire logistique pour pouvoir apporter notre offre de mobilité à toutes ces entreprises-là. Donc déjà, c'est le gros objectif. Et à côté de ça, c'est comment est-ce qu'on le décline ça en équipe, en ressources, en financement pour arriver à ces objectifs-là. Nous, ce qui nous anime vachement dans ce projet-là, Starbolt, c'est un, d'être toujours dans une notion de croissance. Ça nous plaît pas mal. De se bouger dans le sens d'aller chercher des objectifs qui nous paraissent un peu inatteignables, mais sur lesquels en fait finalement on se rend compte qu'on arrive à les atteindre, on se rend compte qu'on arrive à trouver les bons conseils, les bons financements pour le faire. Donc voilà, c'est de se fixer des objectifs hauts, d'avoir un côté aussi très vite international et européen, très attiré d'avoir une équipe internationale, avoir des différents profils de différentes nationalités. C'est le cas aujourd'hui on a 4 nationalités dans une équipe d'à peine 15 personnes. Et donc voilà, se donner un côté, ce qui nous anime profondément, c'est de donner un côté assez déjà européen à l'entreprise ces prochaines années.
Ok.
Et puis l'impact, hein. Enfin, et l'impact, c'est aussi ce qui drive vachement et ce qui a fait notre choix au début d'aller sur la mobilité, la capacité à ce qui est fou avec le vélo, c'est qu'on est, c'est une évidence, et pourtant on est au tout début. Je vous donne juste deux chiffres. 2% des déplacements en France sont faits à vélo. C'est la part modale des déplacements à vélo. Et pourtant, plus d'un trajet sur deux fait moins de 5 km et se passe dans nos villes. Je vous dis pas que demain on fera tous nos déplacements dans les villes à vélo, mais la marge est juste tellement énorme. Et en plus c'est fun, et en plus on véhicule un truc qui est cool pour la planète. Le marché il est dingue. On a un positionnement qui est hyper intéressant. Moi je ferai un gros call aussi à tous ceux qui veulent nous rejoindre, parce qu'on est en train de monter une équipe de rockstar sur un marché qui est hyper excitant, qu'on veut se marrer, voilà, grosse ambition sur ces prochaines années. Il y a vraiment des très belles choses à faire.
Trop cool. On approche de la fin. Est-ce que vous avez des derniers petits conseils à partager à ceux qui nous écoutent, mis à part vous rejoindre, qui a l'air d'être un très bon conseil, mis à part de vous appeler pour prendre des vélos Starbolt, qui ont l'air d'être un excellent conseil aussi, mais au-delà de ça, des derniers conseils pour ceux qui voudraient se lancer peut-être?
À notre niveau, et après on a toujours des, enfin voilà, avec 4 ans d'entreprise, c'est long en fait, c'est vraiment c'est un marathon, et on l'entend souvent que c'est un marathon, mais c'est vraiment un marathon. Donc c'est comment déjà personnellement, en tant que, si vous voulez monter une entreprise, c'est comment est-ce que vous arrivez à garder de l'énergie en vous, garder d'être animé toujours par ce que vous faites. Ça paraît tout bête, mais il y a parfois des gros coups de mou où c'est compliqué de bosser. Donc c'est comment est-ce que je trouve le bon équilibre pour avancer et monter sa boîte. De faire hyper attention à son hygiène de vie personnelle pour pouvoir donner le meilleur, parce que beaucoup de choses reposent sur ces épaules là donc ça c'est d'un côté un peu plus humain, et c'est de faire c'est de s'associer aussi des bonnes personnes, d'avoir du feedback autour de vous. Et puis du côté business, c'est très rapidement, mais j'ai été le premier, enfin, à l'entendre 15 000 fois par plein d'autres entrepreneurs, c'est d'arriver à vendre une première chose. Et en fait, c'est quelque chose qu'on fait pas en se disant c'est pas assez bien. Et finalement, c'est ce qu'il y a de plus, comme tu le disais Hugo tout à l'heure, c'est les clients qui drivent ton projet, mine de rien, et qui c'est là où tu sais que, enfin, ils savent où est-ce qu'il y a de la valeur, et c'est à eux de le dire. Donc d'être hyper à l'écoute et de leur vendre une première chose, quelle que soit, que ce soit une application, un produit.
Ou un scooter électrique.
Voilà, faire vachement attention à soi, parce que c'est long, et pour tenir dans la durée, c'est long, et de vendre, en fait, il n'y a pas de secret. Enfin, c'est une boîte, faut vendre, et en fait,
c'est ça qui aide à tenir dans la
durée. D'être longtemps sur des business plans et sur des trucs, ça ne sert pas à grand-chose, et on l'entend trop souvent, et finalement, en le faisant, on fait les mêmes erreurs, et on s'en rend compte après, au bout de 3-4 ans, que...
Ah, c'est ça que ça voulait dire.
C'est ça que ça voulait dire.
C'est ça que ça voulait dire.
Et voilà. Donc,
oui, c'est clair.
Go.
Mais c'est vrai que l'association, ça a été... j'aurais jamais pu le faire tout seul, je pense. Et c'était vraiment un pilier... dédicace à beaucoup fondateur.
Déjà, ils ont tenu à faire ce podcast à deux.
Mais c'est vrai que ça a été hyper fort. Franchement, pas avoir peur, mais c'est pareil, c'est un peu un lieu commun, le petit gars que tu vois au networking, et tu te dis putain, faut que j'y aille, faut que je lui parle pas, mais franchement, t'en as rien à faire, tu vas lui parler, et au pire, tu te prends. Tu sais, c'est un peu ce truc de plus tu te prends des vents, il y a un moment, t'as plus peur de te prendre des vents, parce que tu en es déjà tellement pris que tu relativises ton truc. Donc, franchement, faut juste y aller au culot, quoi. Et puis, il y a un autre truc qui fait vachement aussi écho, c'est délivrer, même si c'est mal, délivrer. Et moi, j'avais vachement de mal à le faire au début, j'étais un peu justement à trop over réfléchir les choses. Et en fait, surtout au début, c'est vraiment, vraiment pas parfait, voire assez nul. Le fait que ce soit livré, ça fait quand même avancer les choses,
VS rien,
que ça reste dans ton ordi. Et donc, même si ta presse, elle est pas terminée, envoie-le au client, tu t'en fous, et puis tu l'appelles derrière, et puis tu lui dis, écoute, j'ai pas le temps de terminer, mais voilà, on peut déjà parler de ça, et puis on avance, quoi. Et après, y a pas.
Vendre et délivrer, c'est bien.
Et faire attention à soi.
Et délivrer les petites victoires aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais fait être dans ce process de putain, c'est cool quoi. Même si c'est juste un rendez-vous, bah, c'est cool.
C'est galère, mais c'est
même
cool.
Même si c'est 10% du process, que c'est toujours 10% du process de toute façon. Donc.
Mais et puis pas trop se comparer. Enfin, on pourrait donner plein de conseils. Mais souvent, on est dans un écosystème un peu startup, que telle boîte a levé tant, tout va bien sur LinkedIn. Enfin, t'as l'impression que on vit dans un monde de bisounours où l'argent coule à flot. Et en fait, il y a un peu un biais dans tout ça, c'est que tu penses, enfin voilà, que tu te compares beaucoup. Et finalement, faut pas trop se comparer, faut pas trop regarder ce que font les autres, mais te concentrer sur tes équipes, sur ton association, ton business, faire ton petit bonhomme de chemin. Et tu peux rapide, en fait, tu rentres, si tu continues à te comparer dans cet écosystème ou de tu peux rapidement en fait tomber dans des choses où tu te dis ce que je fais, c'est pas forcément est-ce que je suis à ma place, est-ce que je le fais. Et finalement, il faut faire avancer et d'être fier de ce que tu fais.
Et en plus, quand on se compare, on n'a pas l'impression que tout le monde galère alors que tout le monde galère. Donc merci d'être venu sur le podcast raconter les vôtres, c'est super sympa, super intéressant de vous avoir vous deux et d'avoir les deux visions de Starbolt aussi. Comment on vous contacte? Si on veut vous contacter.
Sur notre
site internet.
Sur votre site internet.
www.starbolt.co.
Très bien.
Voilà.
On mettra les
ou sur LinkedIn. Hein,
sur LinkedIn, LinkedIn sur
Welcome to the Jungle. Si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Jamais.
on vous l'a dit. Ce sera le dernier mot. Merci à tous les deux d'être venus. Et merci à ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Bonne journée.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.